Les propos qui vont suivre peuvent être difficiles et font état de situations de souffrance. Si une personne de votre entourage ou vous-même pensez au suicide, appelez le 3114, numéro national de prévention et d'écoute.
J'essaie de comprendre en fait ce qui amène le jeune Drake qui sont obligés de faire ce Pensez les suicides. Bienvenue dans la série PLS, Pensez les suicides. Issu du séminaire des recherches organisé en 2024 sur les approches critiques de la mort volontaire, ce série vise à réfléchir aux pensées contemporaines du suicide. En avril 2025 est apparu un rapport fait au nom de la commission d'enquête sur le manquement de politique publique des protections de l'enfance, rapport accablant de tout point de vue, soulignant le faille dont souffre la protection de l'enfance en France. Manque de moyens, manque de personnel, violence institutionnelle ou structurelle, ainsi qu'un désengagement de l'État. À tel point que les rapports soulignent que l'État est le premier parent défaillant de France. Le rapport mentionne aussi que violences faites aux enfants, violences qui peuvent être à l'origine des placements, s'ajoutent les violences institutionnelles dans un système défaillant, avec des conséquences graves pour les personnes parvenues à l'âge adulte. Toutes ces conséquences ont déjà été bien renseignées par différentes recherches. Certaines notent par exemple la surexposition des anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance, au chômage, à la pauvreté, au sans-domicilisme et aux violences. Cette souffrance ne découle pas uniquement du passage en institution et d'autres études notent que les enfants placés arrivent souvent avec des souffrances psychiques aiguës. Malgré l'écho de ce rapport, aucune véritable mesure ne semble avoir été prise pour essayer de mettre fin à ces systèmes de reproduction de souffrances et d'inégalités. Plus encore, la question de la santé mentale est absente, à la fois des discours politiques, mais aussi des recherches, qui interrogent peu la façon dont l'institution peut produire ou renforcer des souffrances et un mal-être. Les quelques recherches existantes sont pourtant sans appel. La Haute Autorité de la Santé notait en 2021 que la prévalence des troubles psychiques dans la population concernée a pu être estimée à 49% dans le cadre d'une méta-analyse incluant 3014 enfants protégés, soit une prévalence près de 4 fois supérieure à celle observée en population générale. Comment est prise en charge la santé mentale dans les institutions d'accueil des enfants protégés? Comment le professionnel allant de la protection de l'enfance à la psychiatrie répère-t-il et soigne-t-il cette souffrance? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Myriam Auger, docteur en sociologie, autrice d'une thèse intitulée « Les usages de la distance ». Déambulation pragmatiste dans un foyer de la protection de l'enfance, qui est actuellement engagée dans une recherche postdoctorale portant sur l'état suicidaire des jeunes en structure collective de protection de l'enfance, quelles ressources partenariales de prévention et d'intervention pour le professionnel français et irlandais.
Bonjour Myriam.
Bonjour.
Bonjour.
Tu as travaillé sur l'accompagnement des adolescents suicidaires dans les foyers avec un regard appuyé sur les violences institutionnelles. Qu'est-ce qui t'a conduit à ce sujet et comment tu l'as abordé dans ton travail?
Justement, les violences institutionnelles. Moi, j'avais fait ma thèse sur les foyers et c'était une thèse qui a été initiée en fait par des questionnements. Moi, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice et j'entendais beaucoup les jeunes qui vivaient dans ces foyers me questionner sur ce que faisaient les éducateurs, ce qu'ils racontaient à leur sujet, notamment dans leurs réunions, dans leurs écrits professionnels. Ça les travaillait énormément parce qu'ils n'avaient pas du tout accès à ces écrits, à ce qui se disait. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma thèse, en fait, on va dire, avec une commande de ces adolescents, de ces publics du travail social qui ont généralement peu leur mot à dire sur les thématiques de nos enquêtes, etc. Donc, c'était vraiment une volonté de répondre à une question du public. Et du coup, voilà, j'ai fait cette thèse-là qui expliquait en grande partie les conditions dans lesquelles les violences institutionnelles peuvent perdurer, quoi, peuvent prendre place. En fait, ma question, c'était voilà, comment, finalement, voilà, comment des personnes ordinaires, plutôt bien intentionnées, etc., peuvent perpétuer des violences à l'égard d'autres personnes. Quelles sont les conditions un peu matérielles, institutionnelles, organisationnelles de la perpétuation de ces violences. Donc voilà, c'était ça, c'était mon sujet de thèse et ce qui m'a permis d'investiguer. Et donc, après coup, j'avais cette idée que, bon, j'avais montré un peu un mécanisme qui est important dans ces institutions, mais je voulais vraiment aller plus près des absences, entre guillemets, voilà, d'un phénomène de violence que j'avais observé, qui est nommé conceptuellement dans les théories du care, le carelessness, c'est-à-dire le fait de ne pas répondre en fait aux attentes et aux demandes de soins d'un public, quoi. Donc ça, c'était une question qui me taraudait énormément, parce que je voyais des enfants, des mineurs placés, ils sont placés parce qu'ils ont subi des maltraitances, ils ont subi un certain nombre de choses, on s'attend a priori à ce que les adultes soient réceptifs à leurs demandes, quoi, essayent de les consoler, quoi, enfin tout simplement hein, des choses, des gestes basiques, et puis ce qu'on s'aperçoit sur le terrain, c'est que la professionnalité va avec une certaine forme de rupture de l'ordre attendu des choses, quoi, et des non-réponses à des demandes, on va dire assez basiques, quoi, en termes de sens commun.
Tu parles de carelessness, de comment ça s'inscrit dans une forme de violence organisationnelle, institutionnelle, etc. Et est-ce que tu pourrais un peu nous préciser ce que tu entends par ce que c'est qu'une violence institutionnelle? Comment elle se décline, en fait, auprès des jeunes que tu as pu observer?
Alors, les violences institutionnelles, c'est tout à la fois, ça va être des actes de violence perpétrés à l'égard des publics, des institutions, mais c'est aussi l'absence d'actes, quoi. C'est vraiment dans les deux sens, quoi, hein. Ça peut être, on peut faire violence en agissant de façon violente, mais aussi en ne répondant pas, en ne prenant pas soin, voilà. Et donc ça, c'est vraiment les deux phases qui sont importantes à comprendre sur les violences ou maltraitances institutionnelles. Moi, ce que j'ai montré dans ma thèse, justement, ce que j'y tenais, c'est que c'est pas des chaînes de commandement. Il y a personne qui prône le fait d'être violent avec ce public qui est pour rien, quoi. En plus, pour le coup, enfin, par exemple, je me suis aussi intéressée aux jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui, eux, ont eu affaire au pénal, quoi, pour une raison ou une autre. Alors là, il y a des discours politiques qui veulent du mal à ces enfants-là, quoi. Mais dans le cas de la protection d'enfance, en toute logique, voilà, il y a personne qui prône le fait de ne pas répondre à leurs besoins, de pas accueillir leurs souffrances, etc. Donc voilà, il y a pas, on trouve pas facilement la source de ces violences, et elle est vraiment comme vous disiez, quoi. C'est moi, ce que j'ai montré, c'est que c'est vraiment un phénomène organisationnel qui va au-delà, enfin, de la volonté, qui incarne pas la volonté d'acteurs spécifiques, mais des modes de faire qui ont du sens, hein, et qui se sont sédimentés au fur et à mesure jusqu'à créer une expérience pour le public qui est assez insensée, quoi. Donc les gens ont évidemment, il y a des positionnements différents, il y a des personnes qui ont repéré ces violences institutionnelles, parce que il suffit, je veux dire, pour les repérer, d'écouter le public, quoi, qui se plaint, qui a un public qui est complètement autonome, qui est critique, qui a une capacité aussi à rentrer dans l'institution, quoi, et à rentrer en conflit. Donc là-dessus, voilà, il y a un certain nombre de professionnels qui sont tout à fait au fait de certaines violences et qui s'y refusent. Souvent, quand même, ça les met vraiment en situation marginale dans l'institution. Parce que j'ai vu, c'est des personnes qui disaient « moi, je veux conserver des bonnes relations avec le public ». Et alors, par contre, du coup, pour ça, ils avaient tendance à trahir un petit peu l'esprit d'équipe, à refuser. Et ça, c'était hyper intéressant, parce qu'ils n'avaient pas fait l'enquête que j'avais fait, mais bon, en fait, ils avaient bien compris. Donc, à refuser de participer aux réunions d'équipe, à refuser des écrits professionnels.
Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous préciser peut-être un peu plus qui est ce public? Est-ce que parmi ces jeunes, ils sont nombreux ou nombreuses à connaître des conduites suicidaires et où c'est visible? Et aussi, qui sont ce que tu appelles les professionnels? Qui sont-ils? Leurs fonctions? Même peut-être s'ils ont des... Il y a des profils socio-démographiques qui ressortent un peu de ces professionnels-là, de ces équipes, les éducateurs, les éducatrices?
Alors, au niveau des mineurs, c'est des mineurs qui se sont trouvés soit par l'intermédiaire d'un juge, soit avec, entre guillemets, l'accord de leurs parents par le biais du département, quoi, des inspecteurs du département, quoi, qui se sont retrouvés confiés à des établissements d'accueil. Donc, ce n'est pas tous les mineurs qui sont suivis par la protection de l'enfance qui vont se retrouver à vivre dans un foyer collectif. Il y en a qui vont rester au domicile de leurs parents et qui vont avoir un suivi. Il y en a qui vont aller dans des familles d'accueil. Donc voilà, c'est un mode d'accueil spécifique, le foyer. Ça ne dit pas forcément grand-chose de leur profil, bon, à part qu'on a considéré que ce n'était pas possible qu'ils restent au domicile de leur famille. Mais après, voilà, le mode de placement ne dit pas grand-chose de leur profil parce que l'institution est en grande difficulté, a des manques de place. Et donc, en fait, bon, bah, les enfants sont un petit peu dispatchés, un petit peu n'importe où. Ce qui pose problème aussi. Enfin, voilà, ce qui est quelque chose, par exemple, à réfléchir sur les profils d'adolescents suicidaires. On sait que la collectivité peut être protectrice. Et en même temps, il peut y avoir besoin de liens, d'individualisation et tout qu'on ne va pas trouver dans un foyer. Bon, par ailleurs, on sait aussi que... Enfin, dans le cas de la postvention, enfin, que les conduites suicidaires aussi, ça peut être difficile à vivre pour les autres jeunes qui sont accueillis, etc. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a aucun département qui a mis les moyens de pouvoir bien choisir le mode d'accueil de ces jeunes. C'est assez difficile parce que moi, voilà, pour vous dire mon processus d'enquête qui fait que j'ai du mal à répondre à ta question, c'est que du coup, moi, j'ai été voir des professionnels uniquement, donc j'ai pas du tout enquêté comme toi auprès des jeunes. J'ai été voir uniquement des professionnels et je leur ai demandé dans leur carrière. Voilà, s'ils avaient rencontré des adolescents qui s'étaient suicidés, on a discuté si c'était le cas des différents adolescents qui s'étaient suicidés, s'ils avaient rencontré des adolescents qui avaient des idées suicidaires, qui avaient fait des tentatives de suicide ou qui avaient, entre guillemets, des équivalents suicidaires, ce qui est, bon, un terme médical que, bon, moi, j'ai remployé de façon, peut-être pas avec toute sa signification médicale, mais en gros, des jeunes pour lesquels ils étaient vraiment inquiets d'une mort probable, sans que ces jeunes y verbalisent une intention suicidaire, mais parce qu'ils avaient des conduites à risque au point qu'ils pouvaient mourir, quoi. Donc c'est vraiment à partir du regard, moi, des professionnels que j'ai catégorisé les publics dont ils me parlaient. Donc, ça ne me donne pas du tout une approche statistique fiable, voilà, du phénomène. Et ce qui est important, c'est que, par exemple, ce n'est pas le cas. Moi, je travaille avec des collègues irlandais. En Irlande, désormais, on comptabilise le nombre de suicides dans les foyers. En France, on n'a pas ces chiffres-là. Rien que le suicide, en fait, on ne sait pas combien il y a de suicides. Il y a normalement les établissements qui doivent faire remonter des informations au département sur les tentatives de suicide, sur les incidents graves. Et pour l'instant, ces informations, je ne sais pas où elles en sont. Mais en tout cas, même le suicide, on ne sait pas combien de jeunes ça concerne. Les tentatives de suicide, on ne sait pas du tout combien de jeunes ça concerne. Mais quand même, en discutant avec les personnes allant dans les foyers, en fait, il m'est presque arrivé à aucun moment d'avoir un professionnel qui n'était pas capable d'identifier au moins un jeune dans une de ces catégories.
Donc, tu mets en évidence la question de l'omniprésence d'une santé mentale dégradée, voire de conduites un peu autodestructrices jusqu'à des conduites suicidaires ou équivalents suicidaires. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que ça arrive dans un cadre... Du coup, tu mets en évidence la question de la violence généralisée par l'institution, l'organisation, par qui du coup aussi se reflète, comme tu dis, par parfois l'absence de réponse à un mal-être. Et ça m'amène à cette question de est-ce qu'il y a un protocole établi en cas de repérage d'une situation de mal-être ou de crise suicidaire chez des jeunes? Est-ce qu'il y a un protocole mis en place? En tout cas, dans le foyer dans lequel tu as fait tes observations, est-ce qu'il y a un protocole mis en place pour prendre en charge la santé mentale de ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a un maillage territorial avec des institutions de santé ou, enfin, comment ça se passe, en fait?
Alors, moi, j'ai enquêté sur 7 établissements. Donc, 3 établissements qui étaient dans une ville de province. Et bon, en fait, du coup, j'ai un petit biais dans mon terrain. C'est que du coup, j'ai enquêté sur 3 établissements de la protection d'enfance dans une ville de province et dans 4 établissements qui relevaient de la protection judiciaire de la jeunesse dans une grande métropole. Je vais aller tout de suite sur cette question du protocole. Il n'y en a pas de protocole dans aucun des établissements. Il n'y a aucun protocole mis en place. Et de toute façon, la question même du suicide... Moi, il y a une partie de l'enquête que j'ai fait avec d'autres chercheurs qui ont fait exactement la même observation. C'est qu'en arrivant dans des foyers, en disant qu'on on voulait faire une enquête sur la question du suicide, bon, au départ, on a eu un accueil... Alors, c'est différencié, c'était pas... Voilà, je généralise. Mais en grande partie, un accueil de gens qui nous disaient « c'est absurde, quoi ». Bon, voilà, c'est un peu absurde, c'est un faux problème, et des vrais problèmes, on en a. Enfin, voilà, c'était un peu absurde, et en plus, un peu maladroit, comment ça a été reçu par les gens, et avec un peu un discours sous-jacent qui venait signifier qu'ils avaient des vrais problèmes et que les jeunes avaient des vrais problèmes qui n'étaient pas de l'ordre du suicide, et que ces gros problèmes étaient liés au fait que les jeunes étaient des durs, quoi, et que les jeunes étaient durs. Voilà, durs pour les professionnels de travailler avec eux, des durs, et ça impliquait l'idée que du coup, étant des durs, etc., ils n'avaient pas de problématiques suicidaires. Alors, en sachant que par contre, une fois qu'on a fait l'enquête et en discutant avec les gens, on se rend compte que le phénomène est tout à fait présent. Ouais. Voilà, et par ailleurs, qui concerne aussi beaucoup de jeunes qui sont aussi des durs, et qui, entre guillemets, et qui sont aussi violents. Et enfin, que voilà, c'est pas parce qu'il y a l'auto-agressivité qu'il n'y a pas d'hétéro-agressivité, etc., que ces choses-là sont entremêlées.
Et est-ce que ce déni que tu expliques, il est organisé ou il fonctionne de la même manière dans les différentes institutions que tu as enquêtées, que ce soit en province ou que ce soit en ville ou selon l'institution en particulier, puisqu'il y a différentes institutions et aussi même peut-être par rapport au public. Tout à l'heure, tu évoquais des publics soit entièrement féminins ou masculins. Est-ce que là, il y a des gestions ou donc informelles, on le comprend, différentes entre les professionnels face à ces situations?
Ouais, il y a déjà une différence pour reprendre aussi sur la question précédente sur le travail partenarial. Il y a une énorme différence entre mon terrain de province et le terrain de métropole, de la grande métropole, sur le travail partenarial et sur l'efficacité, enfin je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas les services de pédopsychiatrie dans la ville de province que j'ai étudiée, et je pense que c'est aussi spécifique à cette ville parce qu'elle est connue pour ça, font un travail qui est quand même beaucoup plus important. Eux, ils ont vraiment un travail à destination des enfants, des adolescents placés. Ils connaissent très bien. Ils font beaucoup de réunions de concertation avec la protection de l'enfance, avec la protection judiciaire de la jeunesse. Et voilà, donc ils sont quand même assez actifs. Ils ont une politique assez, enfin, je trouve très, très intéressante. C'est qu'ils ont embauché, en fait, dans la maison des adolescents et dans l'unité pédopsychiatrique, énormément de personnel qui vient de la protection de l'enfance. Donc du coup, qui connaît, enfin notamment leur assistante sociale, enfin voilà, ils embauchent, ils font exprès, eux, enfin c'est quelque chose qu'ils regardent à l'embauche parce que ils ont des éducateurs aussi. C'est ça aussi, c'est qu'ils insistent aussi pour garder vraiment un nombre important de personnel éducateur dans l'établissement pédopsychiatrique. C'est vraiment un truc qui joue en faveur des personnes si elles veulent être embauchées, si elles ont une expérience en protection d'enfance. Donc là-dessus, voilà, c'est eux, ils sont vraiment très très volontaires. Là-dessus, et ça fonctionne au sens où, dans cette ville, bon, malheureusement, dans cette ville, bon, mon enquête, on m'a parlé de deux cas de suicide qui ont eu lieu, hein, donc ça, c'est évidemment pas complètement protecteur. Donc là, vraiment, voilà, au niveau de cette ville, il y a quand même un travail très, très volontaire là-dessus, qui évidemment aide, parce que ce que je disais tout à l'heure, la réaction un peu des professionnels par rapport à notre enquête, c'était au départ vraiment quand même les professionnels qui, eux, n'avaient pas été confrontés à des cas de suicide réels, en tout cas, et qui après se souvenaient de choses et se disaient « Ah oui, en fait, c'est de l'ordre du suicide, je ne l'avais pas vu comme ça. » Par contre, les professionnels qui avaient été confrontés à des cas de suicide, ils étaient beaucoup plus... ils trouvaient même que l'enquête, ce n'était pas assez, en fait. C'était plutôt dans l'autre sens. En fait, on a besoin de beaucoup plus de choses que cette enquête. On veut que l'institution elle s'engage à faire quelque chose et voilà, que ce ne soit pas juste une enquête comme ça, etc. Donc il y avait quand même aussi cette réaction. Et voilà, en tout cas, quelque chose de plus volontaire. Et du coup, ben, pour les établissements qui sont confrontés à ces jeunes-là et du coup, qui se frottent aux institutions pédopsychiatriques, on voit qu'il y a quand même un apprentissage, même si, et puis des pratiques qui circulent, même si ben, ils restent matériellement vraiment extrêmement, extrêmement limités dans ce qu'ils peuvent faire. Et puis que par ailleurs, ce n'est pas forcément porté par tous les professionnels. Enfin, là, je voyais qu'il y avait vraiment une différence entre les professionnels d'établissement, ceux qui se sentaient... en fait, il y avait heureusement, presque dans tous les établissements, quelques professionnels qui se sentaient vraiment apportés par ces questions-là. Mais c'est eux un petit peu qui les portaient pour toute l'équipe, quoi.
Moi, je voulais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire, sur la gestion un peu différente en fonction des éducateurs, des travailleurs... des professionnels, de manière générale, sur des responsabilités un peu plus individuelles qu'organisationnelles dans la gestion de la souffrance, etc. Sur le fait aussi que, quand tu es rentré sur ton terrain, ce qui est hyper intéressant, où même si tu montres que la santé mentale dégradée est une question un peu omniprésente, elle est pourtant un peu silenciée par les professionnels, etc., quand tu es rentré sur tes terrains. Et je voulais te demander, en retour, parce que tu as forcément eu... était quand même un peu en contact avec les jeunes. Est-ce que tu as remarqué une différence entre ce que les professionnels identifiaient comme cette personne, ce public, enfin ce jeune-là ou cette jeune-là va mal, et des profils qu'ils n'avaient pas identifiés et pourtant qui, des jeunes qui allaient mal. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tout ça une silenciation de la part des jeunes de leur propre malaise, en tout cas de le cacher, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de réponse de l'institution derrière ou pour d'autres raisons?
L'obstacle le plus important sur l'accès aux soins, donc qui fait partie, bon, moi, ce que j'ai investigué pour ce public-là, dans le cadre des établissements de la PJJ de la grande métropole, on retrouvait des problèmes qui sont évidents et qu'il faut dénoncer et continuer à dénoncer, hein, qui sont le fait qu'il y a un énorme problème d'accès aux établissements de la pédopsychiatrie, parce qu'il y a un énorme problème de financement et qu'il y a un problème de saturation de ces dispositifs pour toute la population. Et il y a un énorme problème au niveau de la protection de l'enfance. Il y a énormément d'enquêtes dessus. Je pense que maintenant, il n'y a plus besoin de... Il faut dire que c'est prouvé, c'est une évidence. C'est une institution qui ne répond pas à ses missions et qui n'est pas en mesure de le faire. Oui, il n'y a pas du tout suffisamment de personnel pour faire ce travail. Entre autres, d'autres choses qu'il faudra améliorer déjà. Il n'y a pas suffisamment de personnel. Donc voilà, donc ça, c'est deux obstacles d'accès aux soins. C'est bon, bah, si on ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de place. Et puis si jamais les professionnels qui accompagnent au quotidien, ils ne sont pas en mesure déjà de faire un repérage et puis en plus d'accompagner vers les soins. Parce qu'au niveau des établissements de la PJJ de la métropole, il y avait un gros problème d'adressage aussi. Donc voilà, donc là on a des obstacles connus, déjà dénoncés, qu'il faut continuer à dénoncer, mais qui font déjà l'objet d'enquêtes. Et moi, il y a un troisième obstacle qui est très très clair, et sur les foyers de la protection de l'enfance, c'était clairement l'obstacle principal, qui est le refus de soins des adolescents. Donc, refus sur deux niveaux. Déjà, un refus du soutien émotionnel, voir que c'est plus compliqué que ça, évidemment, mais enfin, ils refusent le soutien émotionnel qui leur est proposé par les professionnels des foyers. C'est-à-dire, ils ne viennent pas les voir quand ils ne se sentent pas bien. Ils ne viennent pas leur confier leurs difficultés. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que c'est une résistance à l'institution, très clairement. Ça ne s'adresse pas personnellement aux professionnels. C'est une manière de dire à l'institution que, de toute façon, elle n'est pas venue prouver à ces adolescents qu'elle était digne de leur confiance et du fait qu'ils se confient. Je pense que c'est très important ça veut pas dire qu'en fait ils s'en fichent de la question psychologique, qu'ils pensent que c'est pas grave. Au contraire, ça veut dire qu'ils pensent que c'est très important et que c'est que confier son intimité psychique et sa souffrance, faut pas le faire à des gens dont on peut pas avoir complètement confiance. Et là, l'institution n'est pas capable d'honorer cette confiance parce qu'elle les insécurise. Enfin, je veux dire, il y a une insécurité qui est très importante. C'est des jeunes qui peuvent se retrouver à la rue à 18 ans sans aucun soutien. Enfin, il y a des choses que l'institution ne fait pas et des violences qu'elle perpétue qui font qu'il n'y a pas vraiment de raison de venir s'y confier. Donc, il y a ce refus-là. Et je pense quand même vraiment que c'est de l'ordre de la résistance. Voilà, vous pouvez m'accompagner chez les médecins parce que je me suis cassé la jambe, vous pouvez me donner à manger, vous pouvez... mais il y a un moment donné où je ne vous reconnais pas cette fonction-là. C'est très compliqué ça pour les éducateurs, notamment ceux qui sont plus... Parce qu'une des manières qui a été prouvée de distinction des éducateurs spécialisés, c'est quand même la psychologie depuis longtemps. Et c'est aussi se dire que voilà, ils ne sont pas juste des gardes d'enfants, ils ne sont pas juste des parents, ils ne sont pas juste des travailleurs domestiques, entre guillemets. Ils sont aussi des gens qui ont une formation psychologique, qui ont du tact, etc. Et donc, du coup, le fait qu'on leur refuse leur soutien émotionnel, c'est pas évident pour eux. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et il y a un refus très clairement des soins de santé mentale. Donc, dans certains établissements, il y a des psychologues. Et ça, de choses connues, hein. Il y a un refus assez important de la plupart des adolescents de consulter les psychologues des foyers. Et puis d'aller dans une démarche de recevoir des soins ambulatoires ou d'être de l'hospitalisation. Et ça, ces refus, des jeunes qui disent non, qui ne font pas, mais aussi des jeunes qui vont fuguer. Enfin, il y a énormément de jeunes qui fuguent, d'ailleurs, de façon assez impressionnante, quoi, des services d'hospitalisation. Et bon, souvent, ils rentrent au foyer. En plus, c'est un peu rigolo. C'est pas très rigolo, mais voilà, quand ce côté aussi un peu de dire non, mais en fait, on rentre. Vous allez nous y remettre et on va ressortir. Et puis voilà. Les professionnels me parlaient aussi de jeunes qui ont vraiment des tactiques, qui discutent entre eux. Donc ça, c'est dans un service qui accompagne des jeunes fugueurs. Donc eux, ils sont quand même déjà très... voilà, ils sont déjà en fugue par rapport au établissement de la protection de l'enfance et ils se connaissent quand même un petit peu parce qu'ils se croisent dans cette ville de province dont je parle. Ils se croisent dans la rue, dans des squats un petit peu, etc. Puis dans cette structure qui essaye de les accueillir et ils se donnent des tips, des choses pour échapper à l'hospitalisation aussi. Quel discours faut dire au médecin, etc. Comment faut s'adresser, qu'est-ce qu'il faut promettre, Et puis comme les établissements, comme de l'autre côté ils sont saturés, ils ont tendance à, ça marche quoi. Visiblement ça marche, ils arrivent à sortir des urgences sans être hospitalisés.
Justement, est-ce qu'il y a parmi ces différents profils de jeunes qui se donnent un peu des conseils, c'est des manières d'éviter un peu le fait d'en parler et du coup cachent un peu ou silencient leur souffrance. Est-ce que tu as noté une différence entre ce que les professionnels identifiaient parmi les jeunes comme les jeunes allant mal et la souffrance entre guillemets réelle de l'ensemble du public des jeunes?
Alors voilà, là-dessus, c'est que du coup, comme j'ai rencontré des équipes d'établissements, j'ai rencontré souvent 4-5 professionnels de chaque établissement. Donc ça pouvait être des psychologues qui travaillaient dans le foyer, des éducateurs, des cadres. Et du coup, je leur posais tous la même question, à savoir quel jeune ils identifiaient comme suicide. Ce qu'ils avaient connu des jeunes qui s'étaient suicidés, quels jeunes avaient fait des tentatives de suicide, avaient des idées suicidaires ou des équivalents. Et ça, c'était vraiment étonnant, c'est que je me suis rendu compte qu'ils n'identifiaient pas du tout les mêmes jeunes. En gros, la grande majorité des jeunes, il n'y a même pas la moitié des professionnels qui les a identifiés. Et ce qui était étonnant aussi, c'est que, par exemple, ce n'était pas les cas les plus graves, entre guillemets, qui étaient identifiés par le plus grand nombre de professionnels, quoi. Disons qui faisaient qui étaient reconnus par tout le monde. Donc il y avait, je ne sais pas, par exemple, des professionnels qui avaient parlé d'un jeune qui faisait des tentatives de suicide répétées, vraiment létales. On se dit, cette personne, en fait, il devrait y avoir une vigilance très, très importante autour d'elle. Et en fait, il n'y a qu'un seul professionnel qui m'en a parlé sur une équipe où j'ai rencontré 4 professionnels du même établissement. Et les autres, ils m'ont même pas parlé de cette personne, quoi. Donc ça montre, en lien aussi avec ce qu'on dit depuis un petit peu le début, mais que ce n'est pas des discussions qui sont formalisées sur cette thématique-là en équipe et qu'il n'y a pas une socialisation, du repérage. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est fait ensemble. Par ailleurs, ce que j'ai vu, c'est que les jeunes les plus repérés, ceux qui étaient repérés par le plus grand nombre de professionnels de la même équipe, ce n'étaient pas du tout ceux qui les inquiétaient le plus individuellement, mais c'était des jeunes qui étaient le plus en demande, et qui, eux, allaient exprimer des idées suicidaires. Voilà. Parce que je pense que le problème des professionnels, c'est aussi un problème de catégorisation. Ils ne savent pas du tout... c'est eux, disent en tout cas, qu'ils ne sont pas du tout en mesure de catégoriser, ils ne pensent pas du tout l'être. Et donc, du coup, ces jeunes qui expriment des idées suicidaires, au moins c'est clair, puisque c'est eux qui le disent. Et donc, c'est eux qui sont généralement un peu plus repérés. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que ceux qui inquiètent le plus, c'est par contre très clairement la catégorie des jeunes qui présentent des équivalents suicidaires. Donc eux, là, c'est encore plus flou. Donc ils sont très rarement... En général, il y a très peu de personnes qui les identifient. Il y a juste une personne qui m'en parle, etc. Et par contre, c'est vraiment ceux qui inquiètent le plus, où là, il y a vraiment... Les professionnels considèrent qu'il y a vraiment des risques imminents de mort, mais ce n'est pas la mort par suicide, du coup, c'est des morts par homicide. Et du coup, c'est plutôt les jeunes profils de la protection judiciaire de la jeunesse, où les professionnels craignent vraiment qu'ils se fassent tuer dans le cadre de RICS, etc., avec d'autres jeunes, ou de l'accident lié à des mésusages de médicaments, des prises de drogue, des conduites à risque, etc.
Vous écoutez Penser les suicides, le podcast. Pour prolonger un peu cette question-là sur la prise en charge, la manière de gérer les crises suicidaires ou, comme tu dis, les équivalents suicidaires, est-ce que tu as remarqué ce que faisait sur la propre santé mentale des accompagnants, le fait d'encadrer ou d'accompagner ou même d'identifier un jeune qui allait mal? Est-ce que c'est géré comme n'importe quel autre problème qu'ils pourraient gérer dans leur quotidien? Ou est-ce que ça a assuré un impact particulier sur leur propre manière d'envisager leur travail ou leur rapport au travail ou sur leur rapport aux jeunes?
Alors, il y a plusieurs choses, mais sur ce que j'ai pu observer généralement, sur en tout cas ce qu'ils font de cette information. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'ils ont repéré un certain nombre de jeunes et qu'ils ont catégorisé, en tout cas, c'est au niveau de l'exercice que je leur ai demandé de faire dans l'enquête, mais on peut imaginer que sans le faire formellement, ils le font quand même dans le cadre de leur travail. Et donc, ce que je voyais, c'est qu'il y avait deux modes de réaction un petit peu par rapport aux professionnels que j'ai vus, en sachant que là aussi, il y a un biais, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, elles étaient fortement incitées à faire des entretiens avec moi, mais bon, elles ont quand même choisi de le faire ou pas. Donc, je pense que déjà, ceux qui sont venus vers moi, c'était les plus convaincus. Mais bon, enfin, ce qui n'est pas forcément vrai. J'ai eu quelques entretiens avec des personnes qu'elles trouvaient que ce n'était pas très... C'est important. Mais bon, en tout cas, il y avait deux modes de réaction, quoi. Un mode de réaction qui est de dire, mais et de toute façon, ça, c'est assez général. C'est une fois que l'adolescent est repéré, pose sa question de qu'est-ce qu'il fait au foyer, du coup. S'il est suicidaire, il y a l'idée que les foyers n'étant pas des établissements médico-sociaux, mais uniquement des établissements sociaux, voilà, s'il est suicidaire, c'est qu'il a une problématique médicale, psychologique, et du coup, il faudrait qu'il quitte l'établissement. Et ça, c'est un phénomène extrêmement violent quand on parlait de violence institutionnelle et de cumulation de violence institutionnelle. C'est que quand même, une des réactions, et ça c'est très clair, c'est qu'il y a très peu de chances qu'un adolescent repéré, enfin ça peut arriver dans certains cas, certains adolescents qui arrivent énormément à gérer cet état suicidaire et comment ils peuvent le communiquer, mais en fait, il y a très peu de chances qu'ils conservent leur place dans l'établissement à partir du moment où c'est connu. Donc on peut se dire aussi que quand les jeunes refusent de se confier au soutien émotionnel proposé par les professionnels, bah, en réalité, quand les professionnels ils savent qu'ils ont un problème psychologique important, et notamment des idées suicidaires, le réflexe quand même est d'avoir envie qu'ils quittent l'établissement. Donc voilà, ça remet les choses en perspective. Là, ça, c'est très clairement, c'est des choses que j'ai observées. Donc soit avec des accords informels avec les familles, malgré le fait qu'il y avait des ordonnances de placement, il y a quand même beaucoup de... Souvent, sous couvert que comme ils ne vont pas bien, c'est bien qu'ils retissent des liens, ce qui peut être vrai aussi. Mais du coup, en fait, il y avait beaucoup d'autorisations un peu non-dites, un peu... Voilà, pour que ces jeunes, en fait, ils puissent rester au domicile de leur famille. Voilà, il y a aussi des dans le cas de mineurs non accompagnés, des cas de jeunes qui allaient vraiment pas bien et qui étaient volontaires, mais qui ont été raccompagnés dans leur pays d'origine, en fait, pour retrouver leur famille là-bas, en sachant que ça se questionne quand même parce qu'il y avait aucun soin du coup qui ont été mis en place dans les pays d'origine. Mais voilà, enfin, une espèce de volonté de les éloigner. Donc soit avec le prétexte de, en fait, on va les rendre à leur famille. Et en fait, ils vont mal aussi parce qu'il y a une fragilité du lien et il faut resolidifier le lien. Soit vraiment des demandes formelles de réorientation dans d'autres établissements, en sachant qu'il n'y a pas d'établissement à ce jour qui existe pour accompagner ces jeunes. Donc en fait, c'est demander qu'ils soient réorientés vers d'autres établissements du même type. Donc en fait, c'est juste des ruptures. Et ça, on sait que c'est extrêmement fragilisant pour les jeunes de perdre encore leur lieu de vie, leur lieu d'attachement, etc. Soit des demandes de placement, donc de demander voilà, que le placement soit levé. Et ça, par exemple, il y a un des cas d'un garçon qui s'est suicidé, dont j'avais pu accéder à son dossier, etc. Lui, il était suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Il relevait aussi de la protection de l'enfance parce que c'était un mineur non accompagné, c'est-à-dire qu'il est arrivé seul en France. Et ce garçon, en fait, il a été pris d'une sorte de délire, quoi, de persécution. C'était pendant le confinement, donc il avait extrêmement peur d'être possédé. Donc il avait peur de tout, en fait, d'être sous le coup d'un sortilège, etc. etc. Et ils se sont rendus compte qu'il n'était plus dans la réalité, entre guillemets. Il y a un moment donné où on le voit dans les écrits, enfin, en fait, ils ont compris que ce jeune, soit il aurait pu commettre un acte hétéro-agressif grave, enfin, potentiellement il pouvait être très dangereux pour les gens, soit très dangereux pour lui-même. Et le réflexe, quand même, a été double, chercher des soins. Sauf que le jeune était en fugue, donc voilà. Et que par ailleurs, ils ont eu du mal à trouver des personnes pour l'accueillir. Et demander à la juge la main levée du placement. Donc avec une course, quand même, de quelque part psychologiquement, le fait qu'il y ait la main levée du placement avant qu'il suicide, a un enjeu de... Bah, en termes de charge de culpabilité. Et en dehors du fait d'essayer de les éloigner du foyer, des professionnels qui disent que même par tact, enfin voilà, par En fait, ils ont peur de faire des bêtises, ils ont peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas, de provoquer quelque chose qu'il ne faut pas. Et donc, en fait, du coup, ils vont se mettre complètement en retrait par rapport à ces jeunes. Ils n'arrivent plus vraiment à leur parler. Et même des gestes un peu basiques, c'est là où on voit qu'il y a vraiment une nécessité de formation. Enfin, la communication et à parler des choses graves, en fait. Enfin, les professionnels en fait, de ces établissements qui rencontrent des personnes qui ont vécu aussi des incestes, qui ont vécu des choses difficiles et qui ont vécu des graves violences et qui peuvent avoir des actes suicidaires, en fait, ne sont pas formés du tout à parler de choses difficiles, pas formés au sens où il y aurait des formulations, des mots à dire, mais au moins oser, quoi. Oser entendre, écouter, et voilà. Et donc, du coup, ils décrivaient eux-mêmes avec une certaine réflexivité que même des choses basiques comme prendre des nouvelles d'un jeune qui a fait une tentative de suicide, et ben en fait, ils le faisaient pas, quoi. Et ce qui est quand même hyper problématique parce que, ben voilà, on voit déjà l'envie que le jeune s'en aille du foyer, et puis le fait d'un coup de plus du tout pouvoir lui parler et de ne pas pouvoir l'écouter. Donc, ça, c'était une partie professionnelle. Une autre partie était beaucoup plus dans le care. Voilà, c'était les gestes qu'ils mettaient en place. Par contre, ce n'était pas des choses spécifiques par rapport au suicide, mais c'était des gestes de discuter avec la personne, d'être à l'écoute, d'avoir des moments individuels, de proposer des activités, des fois même des choses peut-être un petit peu légères, mais de dire bon, on va regarder un film rigolo, on va faire quelque chose pour te changer les idées. Mais voilà, au moins, c'était des petits gestes. Il y aurait certainement énormément de choses à faire pour développer cette gamme d'actions. Et s'ils avaient plus de temps et plus de moyens, ils le pourraient. Et puis aussi plus de reconnaissance pour ce qu'ils font. Mais au moins, voilà, eux, ils essayaient d'engager quelque chose et restaient en lien privilégié avec ces jeunes.
Par comparaison, tout à l'heure, tu évoquais des violences entre jeunes interpersonnelles qui, là, étaient rendues, qui étaient visibles dans l'institution et où les professionnels interviennent, peut-être davantage se sentent obligés d'intervenir quand ces violences jusqu'au risque d'homicide se produisent, que tu disais tout à l'heure. Est-ce que dans ces situations-là, on a des protocoles qui sont mieux pensés, qui existent tout simplement pour gérer ces situations-là, ou est-ce que aussi pour cette violence auto-adressée, on se retrouve dans une même situation où les professionnels sont laissés à leur morale presque et à leurs moyens d'agir.
Alors là, les cas de crainte d'homicide, c'était pas interne à l'établissement, c'était par rapport à d'autres personnes à l'extérieur, en fait, à des prises de risque à l'extérieur. Mais bon, néanmoins, c'est vrai que c'est intéressant sur l'hétéroagressivité dans les services de la protection de l'enfance. Là, il y a vraiment une différence. Enfin, au niveau des, ça tétanise énormément dans l'établissement de la protection de l'enfance. Et c'est vrai que je pense que aussi les adolescents suicidaires, comme je disais, pour une grande partie, ce sont aussi des adolescents repérés comme violents. Et donc, ça peut être aussi la raison pour laquelle on veut les éloigner des foyers. Et ça, c'est aussi un résultat d'enquête, visiblement. Enfin, c'est que c'est souvent, au regard des récits, par exemple, les actes auto-agressifs ou des tentatives de suicide ont beaucoup lieu dans des moments de colère. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup tétaniser, en fait, un établissement de protection de l'enfance. Et en fait, quand les jeunes sont en colère, il y a tendance à s'en éloigner. Et en fait, c'est des moments où ils peuvent vraiment se faire du mal, quoi. Donc il y a ce passage, voilà, cette réversibilité, hétéro-agressivité, auto-agressivité qui est assez difficile à gérer. La violence, en tout cas, auto-agressive comme hétéro-agressive, je dirais qu'elle tétanise en protection de l'enfance et qu'en effet, les personnels sont tout nus. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui existe à part des trucs qu'on fait tous dans nos vies à des moments quand on est pris dans une conflictualité, d'essayer de faire partir une personne qui est énervée, de la faire redescendre. Mais voilà, enfin, il y a vraiment rien. Il n'y a même pas de formation à la gestion de la violence, etc. Au niveau de la PJJ, ils sont plus aguerris sur cette question de la violence physique. Je pense que voilà, ils le disent eux-mêmes. Bon, c'est quelque chose qui fait plus partie de leur métier. Et pour beaucoup d'entre eux, ça leur fait moins peur. Enfin, ils le disent, quoi. Ils ont moins peur, en fait, de l'hétéroagressivité que de l'auto-agressivité.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Pensez
les
suicides.